Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est un seuil important qui vient d'être franchi en vue de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat. À New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, une trentaine de pays supplémentaires ont ratifié l'accord. Ils sont désormais 60 à avoir franchi ce pas décisif, soit un peu plus que nécessaire pour que l'accord issu de la COP21 soit appliqué. Reste à franchir un autre seuil. Pour entrer en vigueur, le texte doit réunir des pays totalisant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On y est presque désormais, mais on n'y est pas encore, malgré la présence de la Chine et des États-Unis parmi les ratificateurs. L'Union européenne, par exemple, manque toujours à l'appel. Alors sans doute faudra-t-il patienter jusqu'à la prochaine COP, la 22, à Marrakech, au Maroc, début novembre, pour que l'ensemble des critères soient atteints. Comme Laurent Fabius l'an dernier, le chef de la diplomatie marocaine, Salahedine Mezwar, n'hésite pas à en dramatiser l'enjeu. Les changements climatiques, dit-il, représentent des risques majeurs pour la paix et la sécurité en aggravant les conflits. Le désordre climatique provoque un désordre sécuritaire. Ces propos, il les a tenus début septembre, en marge d'une autre conférence internationale intitulée « Défense et changement climatique ». Objet de cette conférence, comment adapter les missions de défense au dérèglement climatique ? Une problématique qui part du postulat, largement repris en haut lieu, que la hausse globale des températures et les conséquences environnementales que cela engendre sont des sources de conflits, parce que les ressources deviennent plus rares, parce que les populations migrent davantage. Mais on peut aussi avancer l'hypothèse inverse. En se mobilisant pour limiter le réchauffement, les nations et plus largement les sociétés ne démontrent-elles pas leur capacité à coopérer ? Alors le réchauffement climatique est-il une chance pour la paix ? Et nous allons discuter ce soir avec François Gemène. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège, à Sciences Po Paris, spécialiste des flux migratoires. Vous avez publié il y a quelques semaines de cela l'Atlas des migrations environnementales aux presses de Sciences Po. Vous avez par ailleurs signé l'article « Guerres et conflits environnementaux » dans le dictionnaire de la pensée écologique publié au PUF. Pour discuter avec vous, Bruno Tertrais, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous publiez beaucoup en 2016 « Le président et la bombe » chez Odile Jacob. Un atlas, vous aussi, l'atlas des frontières, murs, conflits, migrations, qui est publié aux éditions Les Arènes. Mais c'est pour un autre ouvrage qu'on vous a invité aujourd'hui, Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne aux éditions du CNRS. C'est un petit peu cette publication d'ailleurs qui nous a notamment donné envie de faire cette discussion. Peut-être d'ailleurs faut-il préciser avant d'entamer véritablement le débat que ce livre n'est pas une remise en cause de la réalité du réchauffement climatique.
Ah non, pas du tout. Ce n'est pas le sujet. Je pars du principe que les scénarios du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat sont des scénarios qui doivent servir de base à la prospective. Hein. Après, que l'un ou l'autre d'entre nous puisse avoir des doutes sur certains aspects des conséquences directes du changement climatique, c'est un autre sujet. Non, je prends pour hypothèse de base que nous sommes dans un monde dans lequel le climat va continuer à évoluer et que notamment les températures et la pluviométrie ne seront pas dans 20 ans ce qu'elles sont aujourd'hui dans nombre de régions du globe.
Voilà, je faisais cette précision donc pour bien dire qu'on n'est pas dans un débat où on remettrait en selle le climato-scepticisme qui n'a peut-être d'ailleurs pas besoin de nous pour être mis en selle en ce moment. Alors dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde où il y a un certain nombre de conflits et sans doute le plus préoccupant aujourd'hui, même si ce n'est pas le seul, c'est celui qui a démarré il y a un peu plus de 5 ans désormais. Nous sommes le 23 mars 2011, manifestation en Syrie dans la ville de Dera.
Voitures incendiées, tirs à balles réelles de la police contre des manifestants lors des funérailles de 2 personnes. 3 morts à nouveau aujourd'hui dans cette ville de Dera, à 100 km au sud de Damas. Du jamais vu dans cette Syrie, tenue par la main de fer du parti Baas au pouvoir depuis 40 ans. Les manifestants ont attaqué les locaux du parti, dominé par la figure du président Bachar el-Assad. Sa famille, issue d'une minorité chiite, dirige le pays depuis 45 ans. Ils ont également incendié les locaux de la compagnie de téléphone Syriatel, tenue par un cousin du président, dénonçant la corruption du régime. Le pouvoir annonce que des réformes sont en cours. Elles seront insuffisantes, pour calmer un vent de contestation sans précédent qui se met à souffler sur la Syrie.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé donc en mars 2011 dans le journal télévisé de France 2. En 2011, la Syrie vient de connaître un long épisode de sécheresse. Il y a eu des migrations importantes vers les villes. Et il y a une thèse selon laquelle ça a contribué à une raréfaction des ressources donc causée par les dérèglements climatiques et ce que ça a contribué à faire d'un conflit social une guerre civile. Que pensez-vous d'abord l'un ou l'autre de cette thèse? Est-ce que c'est une thèse strictement farfelue ou bien est-ce que, on va dire, le facteur climatique a joué au moins un rôle, peut-être pas le seul, mais en tout cas dans le déclenchement de cette guerre? François Gemène.
Qu'il y ait eu une sécheresse en Syrie entre 2007 et 2011, c'est indéniable. Que cette sécheresse ait conduit à un exode rural et une migration vers les villes, c'est indéniable, ainsi qu'une raréfaction des ressources. Maintenant, évidemment, toute la question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce facteur environnemental qui a conduit au conflit syrien? Je pense que l'erreur qu'on commet souvent, c'est d'essayer de vouloir attribuer les conflits à une seule et unique cause. C'est-à-dire, il y a d'un côté des conflits politiques, des conflits économiques et des conflits environnementaux. Un peu comme si les conflits environnementaux étaient apolitiques ou dépolitisés. Et donc, beaucoup vont dire, attention, il ne faut pas du tout insister sur le rôle de la sécheresse ou de la réflexion parce que ça reviendrait à dédouaner Bachar el-Assad de sa responsabilité. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, pour les conflits, comme par ailleurs pour les migrations, on s'obstine aujourd'hui à mettre les migrants dans des catégories strictes en fonction du motif de leur migration. On est dans un monde où les facteurs de conflits comme de migration s'imbriquent les uns dans les autres et s'influencent les uns les autres. Et donc, bien sûr, il y a eu une cause climatique, il y a eu des causes politiques, et l'un et l'autre se sont influencés mutuellement. Et je pense que cette obsession à vouloir séparer les causes des conflits ne permet pas aujourd'hui d'analyser les conflits, ni d'ailleurs les migrations.
Une cause parmi d'autres, Bruno Tertrais ?
Oui, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que les conflits, de manière générale, sont multicausaux, n'ont pas forcément une cause principale, mais je ne crois pas que l'on puisse dire que sans la sécheresse, après savoir si cette sécheresse était un phénomène normal ou a été véritablement causée par l'évolution à long terme du réchauffement climatique est un autre sujet. Hein. Mais la question est de savoir si, sans la sécheresse, il n'y aurait pas eu de révolte syrienne. Et là, à mon avis, là pour le coup, c'est une thèse qui pose problème. Pourquoi ? D'abord parce qu'on voit que d'autres pays qui ont connu cette même sécheresse n'ont pas connu de guerre civile. Ensuite, parce que ce qui déclenche véritablement après la déstabilisation effectivement du monde rural syrien causé par cette sécheresse, c'est deux facteurs qui déclenchent la révolte syrienne. Premièrement, la très mauvaise gestion, délibérément d'ailleurs probablement par le pouvoir de Damas, des stocks de céréales, puisque au lieu, en gros, de réguler le marché des céréales en Syrie, en gros, on va vendre les stocks à l'étranger. Première mauvaise décision. Deuxièmement, et surtout, c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est que des manifestations pacifiques vont tourner à la violence et à la remise en cause du pouvoir à un moment très précis. C'est un, la répression et surtout la torture de plusieurs enfants qui va être un choc un petit peu similaire, si vous voulez, à celui qui a été l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en Tunisie.
Donc, vous avez l'impression, du coup, Bruno Tertrais, qu'en mettant la cause climatique, disons, parmi d'autres causes, ça revient à les mettre au même niveau?
Oui, c'est ça le problème, si vous voulez. La tentation, et là, je pense qu'on sera d'accord avec François Gemène, la tentation existe de dire, voilà, il y a un conflit qui a été causé principalement par les effets du changement climatique. Donc, le changement climatique peut causer des guerres, et des guerres épouvantables, comme celle de la Syrie. Donc, il est urgent de lutter contre le changement climatique au nom, justement, de la prévention des guerres. C'est cette logique-là que je remets en cause. Je ne remets pas en cause le fait que parmi les multiples causes, facteurs complexes qui ont d'amener à un phénomène de déstabilisation à la Syrie, y ait-tu effectivement la sécheresse.
Peut-être que le choix du conflit syrien n'est pas un bon choix pour essayer de démontrer qu'il y a une forte causalité, même si elle n'est pas unique, entre changement climatique, réchauffement climatique et conflictualité. Est-ce qu'on peut regarder dans l'histoire des conflits plus ou moins récents, justement, s'il y a des événements qui permettent de prouver à Bruno Tertrais qu'il n'a pas tout à fait tort dans sa thèse?
Je vois ce que vous voulez dire. Et il ne fait aucun doute que la question du changement climatique a été parfois instrumentalisée comme une manière de mettre le changement climatique en tête des priorités politiques. Parce qu'on se dit, les gouvernements ne s'occupent pas du changement climatique, si on en fait une question de sécurité et de défense, ça va remonter dans l'agenda politique et ils vont davantage s'en préoccuper. Pour autant, cette réalisation de l'instrumentalisation ne doit pas, à mon avis, nous conduire à sous-estimer le rôle de l'environnement dans les conflits. Et plutôt que de causalité, moi je parlais plutôt de corrélation. Historiquement, on observe une très forte corrélation entre des crises environnementales et l'occurrence de conflits. Et si on regarde la plupart des conflits à travers l'histoire, ils ont toujours eu un motif environnemental ou un motif de ressources naturelles, et en particulier la terre et le territoire. La plupart des guerres se sont menées autour de logiques de conquête ou de protection de territoire. On parlait des révolutions arabes, prenons simplement la Révolution française en 1789. On a au départ de la Révolution française une famine des paysans qui vont marcher sur Paris pour réclamer de la nourriture, pour réclamer que l'on s'occupe d'eux. Et puis par la suite, bien sûr, vont se greffer des revendications démocratiques de fin des privilèges à cette revendication. Mais au départ, c'est bien la famine et c'est bien la faim qui pousse les paysans à se révolter.
Mais est-ce que vous diriez, François Gemène, que les corrélations sont suffisamment nombreuses dans l'histoire pour pouvoir en déduire un lien de causalité ?
Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que ce qu'on peut dire, c'est qu'un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent. Et que je pense qu'on adopte beaucoup trop souvent une approche déterministe en pensant que les dégradations de l'environnement vont systématiquement, automatiquement provoquer des conflits. En réalité, c'est dépolitiser l'environnement. Ce qui va compter, c'est la manière dont on va gérer cette question de la gestion des ressources naturelles. C'est très vrai, Bachar el-Assad, au départ, gère mal ses stocks céréaliers, et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres en Syrie. Et donc,
Entre autres.
Et la manière dont on va prendre une décision politique autour de l'environnement, la manière dont on va considérer politiquement cette question, va à mon sens décider si l'on va aller vers une logique de conflit ou plutôt de coopération.
Bon, alors je m'arrête un instant sur ce que vous venez de dire, François Gemène. Un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent. Dans votre livre, Bruno Tertrais, vous dites la température à l'échelle de la planète, elle a augmenté ces dernières années. Or, on est plutôt dans un monde où il y a moins de conflits. Ça ne veut pas dire que les conflits sont moins violents, mais en tout cas en nombre, ils sont moins nombreux.
L'assertion, qu'elle soit faite par François Gemène ou quelque autre personne, y compris des dirigeants politiques, selon laquelle un monde plus chaud est un monde plus violent, je dirais qu'elle reste à démontrer, justement. Alors, j'ai déjà deux arguments pour dire qu'il y a de quoi douter, effectivement, de cette thèse. La première, c'est de dire que, par le passé, c'est plutôt les mondes plus froids qui ont été les plus violents. Autrement dit, dans l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, ce sont justement lorsque la température a baissé que les récoltes de céréales ont été les plus faibles et que ça a déstabilisé les sociétés. Donc, généralement, dans l'histoire, ça a plutôt marché en sens inverse. Deuxièmement, effectivement, vous avez raison de le rappeler, depuis 25 ans, quasiment 30 ans maintenant, nous vivons une période de réchauffement climatique. Enfin, ça ne date pas de là, mais ce qu'on constate, c'est que depuis 30 ans, nombre de conflits militaires dans le monde a tendance à diminuer et non pas à augmenter. Donc comme on a déjà quasiment 30 ans de recul sur cette diminution, au moins c'est un argument qui dessert, à mon avis, totalement la cause de ceux qui pensent qu'un monde plus chaud est probablement un monde plus violent. Alors, pourquoi je dis probablement ? Parce que, et là encore, on sera d'accord avec Gemène, il ne s'agit pas de déterminisme, il s'agit de probabilité. Mais on a quand même suffisamment d'études de cas. Le climat a suffisamment évolué depuis plusieurs milliers d'années pour savoir si, effectivement, ces corrélations sont des facteurs de causalité. Ce que je note, c'est qu'elles vont plutôt dans le sens inverse.
Ces études de cas, est-ce qu'elles vous semblent suffisantes, François Gemène, aujourd'hui ? Parce que vous signalez aussi dans votre article, dans le dictionnaire de la pensée écologique, qu'il y a un problème d'engagement des sciences sociales en la matière, de modèles théoriques qui permettent finalement d'avancer avec davantage peut-être de certitude autour des différentes théories.
Il y a un vrai problème d'engagement des sciences sociales sur ce sujet, et notamment dans la recherche de modèles explicatifs. Et c'est ce qui explique qu'on voit aujourd'hui pulluler toute une série de théories que Bruno Tertrais dénonce et que je dénonce aussi, qui ont tendance à y voir un lien de cause à effet immédiat avec des livres qui sont parfois sortis de scénarios de science-fiction.
Mais quand vous dites un monde plus chaud sera un monde plus violent, est-ce que c'est une forme de pari pascalien que vous faites ? C'est-à-dire il vaut mieux peut-être justement s'attendre à ça et plutôt gérer la violence plutôt que de penser que parce que le monde sera plus chaud, ce sera un monde de paix, de prospérité et qu'on risque d'avoir de gros déconvenus.
Lorsqu'on regarde les corrélations qui sont faites entre les variations de température et l'occurrence de guerre civile, par exemple, ou même les statistiques de criminalité, on constate cette corrélation. Et je pense que l'erreur que commet Bruno Tertrais, c'est de réduire la violence au conflit militaire et de réduire les questions de sécurité à la sécurité des États. Je pense qu'aujourd'hui, et a fortiori dans un monde touché par le changement climatique, il faut élargir cette notion de sécurité à la sécurité humaine, c'est-à-dire qui inclut les questions d'inégalité, les questions de sûreté sanitaire, de sécurité alimentaire, et qu'aujourd'hui on ne peut plus penser la sécurité ou les conflits simplement en raisonnant en termes de conflits entre États. Et je pense qu'il est vrai de dire que le nombre de conflits militaires entre États s'est réduit, mais par contre le nombre de guerres civiles, lui par contre, est resté en augmentation.
Pas du tout. Ah non, le nombre de conflits civils a très nettement diminué. La tendance est très nette depuis 25-30 ans. Alors là, pour le coup, c'est vraiment factuel. Vous me servez un argument que je trouve un peu curieux. Vous dites que c'est une erreur de réduire la question de la sécurité aux guerres. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais mon sujet n'est pas la sécurité humaine, en effet. On peut discuter, il y a un vrai débat, effectivement, à savoir sur l'impact à long terme, sur l'ensemble des sociétés humaines, de l'évolution, de la température et de la pluviométrie. Je reviens toujours avec la pluviométrie, parce que quand on parle des effets du changement climatique, c'est aussi important. Et là, je suis d'accord, c'est un vrai débat à avoir, sur lequel certaines études, dont une fameuse méta-étude est parue il y a 2 ans, qui disait qu'en gros, quand le climat se réchauffe, toutes les formes de violence augmentent. Alors là, il y a des trous méthodologiques partout, on confond le climat et la météo, enfin, ce truc est une horreur. Mais bref, François Jamel a raison de dire que si on s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la sécurité, il faut avoir une vision plus large. Simplement, en l'espèce, je ne fais pas une erreur puisque l'ouvrage que vous avez mentionné se limite à un aspect très simple, c'est est-ce que le changement climatique est une cause de guerre au sens militaire. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'effectivement, il y a un discours politique que nous dénonçons tous les deux, qui est à mon avis de bonne foi, qui n'est pas forcément destiné à il faut faire de la publicité sur le sujet, il faut dramatiser parce que sinon les gens ne vont pas se mobiliser. Non, je crois qu'il y a beaucoup de bonne foi quand Laurent Fabius ou John Kerry, le secrétaire d'État américain, disent un monde plus chaud sera un monde où il y aura plus de guerre. À mon avis, ils sont sincères. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment instruit le sujet. Mais encore une fois, je crois qu'on a une différence de perspective là. Moi, mon sujet, simplement, c'est de démonter ce que j'appelle un mythe moderne, à savoir que le climat, l'évolution du climat peut être une cause de guerre militaire. Et je crois qu'on se retrouvera sûrement pour dire que dès lors qu'on s'intéresse à la sécurité humaine de manière beaucoup plus large, alors là, effectivement, c'est une autre discussion.
C'est une discussion qui nous amène à évoquer, par exemple, et ça fait partie de vos objets d'études, François Jemaine, la question des réfugiés, c'est-à-dire les réfugiés climatiques. D'ailleurs, qui est une notion, je ne sais pas si vous la reprenez à votre compte, mais c'est plusieurs millions de personnes qui sont déplacées pour des raisons de modification du climat. Est-ce que cela contribue pour vous, par exemple, à fragiliser, disons, les sociétés, que ce soit d'ailleurs les sociétés de départ comme les sociétés d'arrivée, et que ça peut créer de la conflictualité?
On voit bien le chaos que provoque aujourd'hui en Europe l'arrivée d'un peu plus d'un million de réfugiés syriens qui fuient des situations désespérées. Et donc on voit bien comment la question de la gestion de ces flux migratoires en Europe est un facteur de tension, un facteur de désunion qui est même en partie conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc en dehors même du drame humanitaire que cette situation, on voit bien que politiquement la gestion de ces migrations est un vrai problème. Le changement climatique va amener et amène déjà des migrations très importantes. Chaque année, les catastrophes naturelles dans leur ensemble déplacent en moyenne 26 millions de personnes. Sur ces 26 millions de personnes, 85% sont déplacés par des catastrophes d'origine hydroclimatique, c'est-à-dire des sécheresses, des inondations, des ouragans. On sait que le changement climatique va accroître ces catastrophes et donc ce nombre de personnes déplacées va augmenter. Toute la question va être de savoir comment on va gérer ces flux migratoires et comment on va organiser d'une certaine manière la question de la redistribution de la population sur la planète. Pour le moment, ces flux migratoires sont essentiellement des flux internes, c'est-à-dire dont la responsabilité est confiée à un seul État puisque les gens se déplacent à l'intérieur de leurs frontières. On peut tout à fait imaginer, je crois qu'il faut l'imaginer, que demain, de plus en plus de zones du monde deviennent inhabitables au sens propre et que donc il y ait de plus en plus de migrations international, et malheureusement l'exemple actuel en Europe nous prouve que ça peut être un facteur de déstabilisation. Maintenant, je m'oppose à ce que l'on fasse des migrations un facteur de conflit. Et souvent quand on va chercher une sorte de chaînon manquant entre changement climatique et conflit, on va trouver les migrations. On va dire les gens vont migrer en masse, ça va créer une pression sur les ressources.
C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les autorités françaises, François Hollande et Laurent Fabius, à la veille de la COP21, et là on sera d'accord.
Absolument, et je dénonce absolument cette instrumentalisation des migrations qui en ferait un vecteur de conflit systématique. Tout dépend des politiques de gestion de ces migrations.
Pour démonter peut-être cet argument du lien entre migration et conflit, est-ce qu'on peut dire, là, par rapport à des observations qui seraient des observations empiriques, Bruno Tertrais, que des pays qui accueillent de nombreux réfugiés, je pense par exemple en ce moment à la Jordanie, au Liban, mais dans le passé il y en a eu d'autres, sont plutôt des pays qui ne connaissent pas de conflit, en tout cas du fait de ces migrations?
C'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a jamais eu de conflit au Liban. Mais en tout cas, je crois que là, on est d'accord sur deux choses. Premièrement, et ça, François Gémen est un expert du sujet, les migrations, on ne peut pas distinguer une catégorie qui sont les migrations purement environnementales et puis aussi les migrations économiques, c'est une autre catégorie, les migrations politiques, troisième catégorie. La migration, comme le conflit, elle est toujours multifactorielle. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC, justement, fait un sort à cette notion de migration purement environnemental. Alors, deuxièmement, on sera aussi d'accord pour dire que la migration en elle-même ne cause pas, historiquement, n'est pas une cause principale, mais même secondaire, de conflits. En revanche, que ça déstabilise des pays récipiendaires, c'est une évidence. Et nous vivons en Europe une forme, je ne sais pas s'il faut l'appeler de déstabilisation, en tout cas des tensions causées par un phénomène migratoire qui, soit dit en passant, n'est probablement pas de nature environnementale, puisque je sais, la dernière fois que j'ai vérifié, l'Éthiopie ou l'Afghanistan... c'est pas causé par des facteurs environnementaux. Mais pour en revenir au Liban et à la Jordanie, les exemples que vous mentionnez sont particulièrement intéressants parce que qui aurait pu penser que le Liban et la Jordanie, qui ont vécu des flux massifs de réfugiés, qui vivent encore aujourd'hui, qui accueillent de manière massive les réfugiés du conflit irako-syrien, finalement ne seraient pas déstabilisés 5 ans plus tard, si on avait parié sur le fait que ça ne déstabiliserait pas, en tout cas à ce stade, que ça ne causerait pas de conflits internes majeurs au sens militaire au Liban et en Syrie, finalement, la résilience des États, même s'ils sont déstabilisés, est souvent plus forte que ce que l'on peut anticiper.
Alors ça va justement nous amener à évoquer l'hypothèse inverse, qui serait celle d'une coopération accrue du fait des changements climatiques.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et un exemple que je souhaitais aborder pour répondre donc à la question que nous posons ce soir à Bruno Tertrais, à François Gémen, le réchauffement climatique est-il une chance pour la paix? Eh bien, c'est un territoire qui va subir, parmi d'autres, mais l'impact de ces changements climatiques est un territoire qui, aujourd'hui, n'appartient à personne. Il s'agit de l'Arctique.
L'Arctique est un immense océan principalement recouvert de glace, qui est entouré par les extrémités nord de l'Europe, de la Russie et de l'Amérique du Nord. Avec la fonte de la glace en été, l'accès aux ressources naturelles de l'Arctique par voie maritime pourrait s'améliorer. Les pays les plus concernés sont les suivants: Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie, Suède et États-Unis. Les États de l'Arctique collaborent pour relever ces défis et saisir les opportunités liées à ces changements. Le Conseil de l'Arctique joue un rôle majeur à ce chapitre.
Voilà, c'est un petit extrait sonore qu'on a trouvé sur le site du ministère des Affaires étrangères du Canada. Bruno Tertrais me faisait remarquer la qualité musicale de l'accompagnement.
Je n'irai pas jusque-là.
Pour évoquer donc le Conseil de l'Arctique, donc cette instance intergouvernementale qui a été créée en 1996 pour promouvoir la jolie, c'est ce qui est écrit sur le site du ministère des Affaires étrangères canadien, pour promouvoir les aspects environnementaux, économiques et sociaux du développement durable dans la région. Alors là, sur ce territoire, par exemple, qui est intéressant, François Gémen, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui est de dire, justement, regardez, il y a ce Conseil de l'Arctique et on est plutôt dans un mode de coopération face aux enjeux climatiques. Et puis, il y en a une autre qui dit, voilà, il y a de nouvelles terres exploitables qui vont apparaître du fait du réchauffement climatique et ça risque de créer une forte conflictualité, notamment pointant, par exemple, les ambitions qu'aurait la Russie sur ces terres.
Les deux sont possibles. Tout dépend des choix politiques que l'on va faire. Et sur les questions de l'Arctique, comme sur les questions d'eau, par exemple, on peut dire la même chose de l'eau. On a aujourd'hui plutôt un phénomène de raréfaction des ressources en eau. Ce qu'on constate, c'est que lorsque la ressource en eau se raréfie, ça a plutôt tendance à renforcer les mécanismes de coopération. Parce que les pays qui partagent un bassin fluvial se disent « l'eau est une ressource tellement importante », c'est un peu comme la bombe atomique, si vous voulez, que si jamais nous tentons de nous accaparer cette ressource, nous allons déclencher un conflit majeur. Et donc, la raréfaction des ressources en eau, peut-être de façon un peu paradoxale, a plutôt tendance pour le moment à renforcer le mécanisme de coopération.
Mais vous écrivez, François Gemène, reste à savoir si cette tendance se renforcera à l'avenir, en particulier dans l'hypothèse d'un changement climatique qui pourrait atteindre 4 degrés d'augmentation d'ici 2100.
Bien entendu, nous sommes face, et ça il faut bien le comprendre, face à un changement climatique que l'humanité n'a jamais connu. On va vraisemblablement aujourd'hui sur une trajectoire de l'ordre de 3 ou 4 degrés. L'humanité n'a jamais connu ce type de changement de température. Et donc toute une série de leçons qu'on peut tirer du passé ne valent pas forcément pour le futur. Et on est aussi, il faut bien le dire, dans une forme de terrain incognita où, comme je le disais, je le répète, beaucoup va dépendre des choix politiques. Et moi, je m'inquiète aussi de voir de plus en plus l'environnement qui devient potentiellement une arme utilisée. Et je suis inquiet, par exemple, des choix qui seront posés en matière de question des terres. Je crois souvent qu'on va croire que le changement climatique est un enjeu de sécurité là où il n'y a pas d'enjeu de sécurité et qu'on va être aveugle face à des enjeux de sécurité fondamentaux, notamment la question des terres et la question de l'habitabilité des terres. Et là, il me semble que c'est quelque chose à côté duquel on passe complètement pour le moment.
Bon, Bruno Tertre, le fait d'être confronté à une situation inédite n'incite-t-il pas à la prudence et donc à n'écarter aucune hypothèse sur les conséquences que vont avoir le réchauffement climatique, soit davantage de coopération, soit davantage de conflits?
Oui, mais écoutez, quand on écarte aucune hypothèse, on n'a rien dit, pardonnez-moi, mais la politique, ça consiste à choisir quelles sont les hypothèses les plus probables et les moins probables. Alors, savoir où on en sera en 2100, moi je n'en sais rien, et les modèles sont quand même très ouverts à ce stade. Je ne connais pas, alors là je fais une petite critique sur la modélisation en trois dimensions que je connais un petit peu pour d'autres raisons. Personne ne peut dire, et le GIEC pas plus qu'un autre organisme, personne ne peut dire aujourd'hui ce que sera le climat en 2100. Les scénarios sont extraordinairement ouverts parce que c'est trop chaotique, si vous voulez, pour qu'on puisse faire des scénarios, à mon sens, fiables. Alors, je reviens à la situation aujourd'hui, on va dire des 20 prochaines années, parce que ça, on peut en parler, à mon avis, de manière plus précise. Vous avez parlé de l'Arctique, c'est très intéressant. Alors, il y a cette idée, c'était peut-être sous-entendu dans l'une de vos questions tout à l'heure, selon laquelle, en gros, l'Arctique, la banquise fond, et donc les ressources sont plus accessibles, et donc ça pourrait susciter des conflits. Prenons pour hypothèse que la banquise fonde totalement, en tout cas la banquise d'été, parce que la banquise d'hiver, à mon avis, c'est encore le temps. Effectivement, ça va faciliter la circulation, ça va faciliter l'accès à un certain nombre de ressources, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les ressources en gaz ou en pétrole de l'Arctique, celles qui ne sont pas encore exploitées, elles sont en général dans les eaux territoriales, hein, dans les eaux territoriales nationales non contestées. Et que donc, a priori, il n'y a pas du tout de raison que ça suscite des tensions particulières. Deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, on se fait la guerre entre États pour le pétrole? Non. Alors ça, je vais dire, c'est peut-être proposé à l'éditeur de ce petit livre de faire un deuxième ouvrage qui s'appellera « Les guerres du pétrole, contre-enquête sur un mythe moderne ».
Vous diriez quoi, les guerres du pétrole n'ont pas eu lieu? Elles n'ont jamais existé?
Ah, je ne dirais pas qu'elles n'ont jamais existé, mais je crois qu'elles n'existent pas aujourd'hui. Attention, on peut se faire la guerre pour le pétrole, mais ce sont des guerres civiles et qui sont dues à l'abondance plutôt qu'à la rareté. C'est un autre sujet. Revenons à l'Arctique. En admettant même que, effectivement, la banquise disparaît totalement, à mon avis, il y aura beaucoup plus d'espace pour le commerce et la coopération que pour la confrontation. Deuxième argument, l'Arctique est un environnement extrêmement hostile. Même avec 4 degrés de plus, c'est un environnement dans lequel, à la fois à cause de la température et aussi tout simplement des icebergs, il est très très difficile pour les forces, pour les marines, si vous voulez, des pays environnants, de se déployer de manière durable, de se déployer en grand nombre. Si vous voulez, imaginez qu'on va se faire la guerre dans l'Arctique, en plus, c'est encore plus, à mon avis, un scénario de science-fiction. Là encore, je dis ceci pour répondre à certains fantasmes.
François Gemène.
Non, je suis désolé qu'on reste un peu prisonnier de cette logique de guerre entre États. Je pense qu'aujourd'hui, les vraies questions de sécurité, elles se posent au niveau civil. On ne va pas revenir sur la controverse sur le nombre de guerres civiles. Je pense que ça dépend de la manière dont on compte et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont déplacées aujourd'hui par des guerres civiles.
On est d'accord là-dessus.
On arrive à un chiffre de 65 millions de déplacés qu'on n'a jamais connu. Et je pense qu'il y a d'abord cette question qui n'est pas suffisamment traitée et d'autre part la question des choix politiques qui vont être faits. À mon avis, la question la plus conflictuelle dans la question du changement climatique, c'est celle-ci. Quelles sont les zones, les territoires que l'on va décider de protéger et ceux qu'on va décider de sacrifier? Je vous donne un exemple précis. On est à peu près d'accord pour dire que le niveau de la mer va monter d'un mètre environ d'ici la fin du siècle. Même si je suis d'accord qu'il y a encore des incertitudes liées au modèle, il y a un certain consensus pour dire que ça va être un mètre. Pour un pays comme le Vietnam, une hausse du niveau de la mer d'un mètre, ça représente une perte de 25 000 km², c'est-à-dire 10% de son territoire. La géographie du Vietnam fait que c'est une longue côte. Et donc, le gouvernement vietnamien peut évidemment décider de dresser une digue pour protéger toute sa côte. Ça paraît difficile d'imaginer qu'il ait la ressource ou même la volonté de le faire. Donc, vraisemblablement, il devra choisir des zones de son territoire qu'il va protéger et d'autres qu'il va sacrifier. Et à mon avis, c'est sur cette question-là que les questions de sécurité liées au changement climatique vont principalement se poser. Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on sacrifie?
Je suis tout à fait d'accord avec cette logique qui consiste à dire que le vrai sujet, ça n'est pas finalement la guerre, le fait que le changement climatique puisse causer des conflits, mais c'est les problèmes qui vont se poser région par région, état par état, et les problèmes de déstabilisation locale, de tension, y compris celles que mentionne François Gemmell.
Si le vrai problème, ça n'est pas la guerre, comment expliquez-vous que, semble-t-il, les militaires s'intéressent autant aujourd'hui au lien entre changement climatique et conflictualité? Il y a plein de conférences. On sait que voilà, dans les différents ministères, on réfléchit justement à ces questions. Est-ce que, par exemple, ayant peut-être faisant preuve un peu de mauvais esprit, Bruno Tartrey, mais est-ce que je vais juste l'assumer tout seul alors. Mais est-ce que les militaires n'ont pas aussi intérêt, par exemple, à entretenir ce que vous appelez un mythe, parce que quand on a une menace devant soi, on a des investissements et que les militaires ont aussi besoin de ça, c'est-à-dire d'entretenir une forme de menace.
Honnêtement, je les connais bien, je travaille beaucoup avec eux, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, et je ne crois pas. Là, pour le coup, je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'abord une certaine, pas de naïveté, mais en tout cas, une certaine consensus pour dire c'est vrai, tout le monde parle du changement climatique. Donc ça va poser problème, donc ça va pour nous aussi avoir des répercussions. Je pense qu'il y a une certaine sincérité, et je connais un peu les gens qui ont rédigé les divers rapports qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis sur le sujet. Non, je crois qu'il y a une certaine sincérité. Deuxièmement, attention, eux, ils se préoccupent de l'impact général sur la défense, pas seulement les guerres, hein, du changement climatique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour eux que, par exemple, l'élévation du niveau moyen de la mer continue, alors il y a des bases, notamment des bases côtières et des bases qui sont sur les îles et qui vont être menacées. Donc c'est un premier problème qu'ils ont légitimement à traiter. Deuxièmement, si les conditions climatiques changent dans des zones telles que le Grand Moyen-Orient, hein, pour faire simple, ça veut dire qu'ils vont être obligés d'adapter leur flux logistique, leur matériel à des conditions climatiques qui changent. Donc là, il y a une adaptation, il y a un coût. Ça les amuse pas du tout, les militaires, qu'il y a un coût supplémentaire. Vous savez, en général, ils préfèrent plutôt qu'il y ait des coûts qui diminuent plutôt que des coûts supplémentaires. Troisièmement, enfin, ils se préoccupent par ailleurs d'un sujet connexe, mais que souvent ils le mettent dans le même panier, si vous voulez, qui consiste à dire, s'il y a lutte contre le changement climatique, il va y avoir globalement un effort général, dans les pays occidentaux au moins, on espère dans d'autres, de réduction de la dépendance en combustibles fossiles, en particulier en pétrole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, nous militaires, disent-ils, pour la consommation de nos véhicules? Est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir, comme on avait en Irak en 1990, des trains logistiques de camions citernes qui font plutôt plusieurs centaines de kilomètres dans le désert pour aller approvisionner les forces? Non, il est temps de changer de modèle. Vous voyez, ils se préoccupent aussi de ceci. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment, ça peut exister, mais en général, dans les milieux militaires occidentaux, cette idée selon laquelle, c'est un nouveau sujet, c'est intéressant pour nous, ça va nous mettre en avant. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se présente.
Sans compter qu'il faut dire que les militaires ont été assez lents aussi à se saisir de la question. Ils ont été plutôt en retard par rapport à beaucoup, au point qu'un rapport parlementaire français soulignait il y a quelques années l'impréparation de l'armée française à ces questions. Bon, heureusement, on a fait des progrès depuis. Il faut se souvenir aussi que l'essentiel des terrains d'opération des militaires, notamment des militaires français aujourd'hui, c'est sur des terrains extérieurs. Et que donc, il n'y a pas seulement comme mission des militaires la protection de la sécurité du territoire, mais aussi toute une série d'interventions extérieures où là, les questions climatiques et environnementales sont essentielles. Il y a aussi de plus en plus des opérations humanitaires. Le cyclone Faylin, par exemple, a touché l'Inde il y a quelques années. Ce qui a permis de réduire considérablement le nombre de victimes, c'est le fait que c'est l'armée indienne qui s'est occupée de l'évacuation des populations. De plus en plus, je pense que l'armée sera sollicitée pour des évacuations de population.
Par exemple. Alors, il y a une nouvelle arme, François Gemmell, dont les militaires, peut-être dans certains pays, pourraient avoir envie d'avoir la maîtrise, c'est la géo-ingénierie. Mmh. D'abord, expliquez-nous ce que c'est et en quoi vous y voyez la... un risque peut-être de conflictualité future.
Alors, la géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des techniques qui consistent à manipuler artificiellement le climat par des techniques d'ingénierie. Par exemple, à créer des nuages ou à créer des éruptions volcaniques artificielles pour faire refroidir la température. Ça semble être des scénarios de pure science-fiction quand on en parle, mais il y a déjà des recherches qui sont menées dans des laboratoires publics et privés et toute une série d'expérimentations qui sont faites. Aujourd'hui, certains disent, si on veut limiter la hausse de température à 2 degrés ou à 1,5 degré et donc éviter d'autres catastrophes, il faut recourir à ces moyens de géoingénierie, de manipulation artificielle du climat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme de gouvernance de cette géoingénierie. Et donc, on peut imaginer qu'un pays déciderait lui-même, pour favoriser ses propres récoltes, par exemple, de créer un climat artificiel, ce qui pourrait avoir des répercussions dans d'autres pays. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un enjeu, quelle que soit la position qu'on ait face à la géoingénierie, à ce que cette question soit régulée, organisée et gouvernée au niveau international. Sinon, je pense que ça pourrait être une véritable source de conflit. Oui.
Et le climat, écrivez-vous, pourrait devenir ainsi une arme de guerre, Bruno Tertrais.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que la question de la géo-ingénierie va être dans les 2 ou 3 décennies qui viennent et celles qui suivent un enjeu absolument fondamental parce que plus le climat évolue et plus la technologie évolue, plus des États et des organismes privés seront tentés de se saisir de cette question à des fins, c'est-à-dire avec de nobles ambitions ou au contraire avec des ambitions beaucoup plus, beaucoup moins nobles. Alors, 2 choses. D'abord, je crois que les militaires n'ont pas du tout envie de se saisir de ça. En tout cas, je ne connais pas aujourd'hui dans les pays occidentaux.
Ils sont sympas les militaires que vous côtoyez. Hein.
Pardon ?
Ils sont sympas les militaires que vous côtoyez.
Ils sont sympas. Vous savez, ils sont généralement représentatifs de la population. Hein. Ils sont ni sympas ni pas sympas.
Rien contre les militaires.
Alors, ils n'ont pas du tout envie de se saisir. Je ne connais pas aujourd'hui de lobby puissant, même de lobby moins puissant, dans les milieux militaires occidentaux qui souhaitent que vraiment qu'on s'empare de ce sujet. Deuxièmement, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même un instrument international et qui s'appelle la convention NMUD, qui date de 1977. NMOD, c'est Environmental Modification, qui interdit la modification de l'environnement, et y compris du climat, à des fins de guerre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas, et là François Gémen a raison de suggérer, qu'on n'aura pas des États qui ne joueront pas le jeu et qui décideront, parce qu'ils auront accès à certaines technologies qui ne sont pas encore accessibles aujourd'hui, de modifier le climat. Ça pourra tout à fait effectivement se produire. C'est un petit peu encore de la science-fiction, mais ça n'est plus trop, c'est de la science-fiction assez proche.
Puisque vous parlez de réglementation internationale, je voudrais terminer en donnant la parole à une juriste qui a beaucoup travaillé justement sur le droit international, c'est Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, qui, dans une intervention justement au Collège de France en octobre dernier, disait ceci. La menace climatique a déjà entraîné l'apparition de nouvelles catégories juridiques comme l'humanité, à chaque fois avec une majuscule, les générations futures et plus largement les biens communs mondiaux. Si ce dérèglement fait naître en temps utile un sentiment de responsabilité suffisamment puissant pour provoquer un changement de cap, c'est bel et bien une chance pour l'humanité. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, François Genel ?
C'est le changement climatique est aussi, évidemment, une énorme menace, mais c'est aussi, je dirais, un grand défi pour nos sociétés, pour les choix collectifs qui vont être posés, et un grand défi pour nos démocraties. Et je crois que le changement climatique teste notre capacité de choix et notre capacité à poser des choix de long terme qui dépassent nos intérêts immédiats. Et donc, si nous parvenons à faire ça, oui, le changement climatique pourrait aussi être l'opportunité de repenser une certaine forme de démocratie et de modèle de société.
Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, les espoirs formulés par Madame Delmas-Marty, qui par ailleurs fait un travail d'expertise tout à fait formidable sur ces sujets. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les campagnes électorales des pays occidentaux. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Europe, ça n'est pas du tout le sujet. Et lorsqu'un candidat à la présidence de la République en France dit en gros le changement climatique, j'en ai rien à faire, ou de toute façon c'est pas l'homme qui est responsable, il surfe sur une vague qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il surfe sur une vague de facilité, parce que c'est vrai que c'est pas l'enjeu mobilisateur aujourd'hui. Je suis donc moins optimiste sur cette capacité d'avoir le changement climatique comme élément fédérateur de l'humanité.
Bon ben, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Bruno Tertrais, les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne aux éditions du CNRS, et puis l'Atlas des frontières qui est publié aux éditions des Arènes, Murs, Conflits, Migration. François Gémen, je
renvoie à votre atlas des migrations environnementales aux presses de Sciences Po, et puis comme on le fait souvent, à ce dictionnaire de la pensée écologique qui est piloté par Dominique Bourg et qui nous sert beaucoup dans cette émission, émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, télécharger pendant un an, commenter sur notre site ou sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Cyril Baer, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Isolte Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Cédric Châtelus. Demain, rendez-vous comme chaque vendredi avec le Club des idées du Grain et nous nous intéresserons à la notion de progressisme en politique. Tout de suite, c'est ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kenen pour une émission spéciale James Ellroy ce soir. Mais pour l'heure, c'est l'heure du rappel des titres. Le rappel des titres avec Tara Schlegel.